Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Musique.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Emmanuel Giuliani, Lucille Como, Lucille, on l'appelle comme ça maintenant, Charles Arden, pour parler ensemble de Hercule amoureux de Francesco Cavalli, c'est à l'Opéra Comique, Offenbach, Sidio pour violoncelle, c'est un disque d'Anne Gastinel et Xavier Phillips, le couronnement de Poppée de Monteverdi par les Arts Florissants en CD et DVD, et un coup de cœur d'Emmanuel Giuliani ce soir pour l'intégrale des mélodies de Reinaldo Anne chez Bruzzani. Et nous ouvrons cette dispute avec Hercule amoureux, ou Ercole et Amante, comme vous voulez. Francesco Cavalli, dirigé par Raphaël Pichon, avec l'ensemble et les chœurs Pygmalion, mise en scène Valérie Le Sort et Christian Heck, tout cela à l'Opéra Comique. Petite page d'histoire pour dire que cette œuvre fut commandée pour les noces de Louis XIV et Marie-Thérèse, infante d'Espagne. C'était... Évidemment, l'idée de faire des accords de paix avec l'Espagne, rattacher les Habsbourg à la couronne d'Espagne, enfin quelque chose comme ça. Bref, c'était en 1659 que ce traité des Pyrénées avait été signé pour bien marquer le coup. Mazarin commande une nouvelle scène des machines. Évidemment, les travaux hier comme aujourd'hui prennent toujours du retard. Faut dire que cette salle en bois pouvait contenir, ai-je lu, 6 à 7 000 personnes. Qu'elle fut construite, vous le savez, Lucille Como, dans le prolongement du château des Tuileries, entre la cour et le jardin, d'où les expressions cour et jardin. Un peu de culture générale. En passant, donc retard du chantier, l'opéra en un prologue et cinq actes a été créé en 1662 sous la direction de Cavalli, avec des ballets de Jean-Baptiste Lully, sur des textes de Benserrade. Donc c'était la maison de France qui était célébrée, beaucoup de ministres et d'ambassadeurs étaient présents pour cette première, et Charles Arden y était, qui nous racontera ça tout à l'heure. L'argument, Hercule aime Iole, mais il est l'époux de Déjanir. Iole, elle, est quand même aimée et aime aussi leur fils, le fils d'Hercule et Déjanir, qui s'appelle Ilus. Vénus s'en mêle, qui va favoriser Charles Arden.
Elle va favoriser Hercule.
L'amour.
L'amour.
Et Junon ?
Et Junon, elle va s'opposer à la tromperie d'Hercule,
faisait
le mariage,
fidélité.
Donc Déjanir, la fidélité.
Prenons des valeurs positives, s'il vous plaît.
Absolument.
Lucille Como, avant qu'on parle de cette production, après avoir pris...
Des valeurs positives.
Parlons des valeurs positives. Alors... de la scénographie et des parties prises de mise en scène pour avoir quelques images à donner à nos auditrices et auditeurs, sachant que des images, ils en auront un petit peu plus tard, puisqu'on pourra voir ce spectacle dès le 12 novembre sur Arte Concert. Le 12 novembre sera la dernière à l'Opéra Comique. Lucille.
Alors, le rideau ouvre sur une vaste toile peinte en bleu. Il y a des rayons de soleil qui dardent, qui sont dessinés sur cette toile qui rappelle immédiatement le roi soleil. Et des têtes sortent du rideau par des trous à diverses hauteurs et c'est le chœur. Et là, on a un prologue avec donc une chanteuse qui rappelle en effet cette félicité à venir grâce au mariage de Louis XIV. Puis, à nouveau rideau. Et là, le rideau s'ouvre sur le décor qui perdurera jusqu'à la fin, qui est un décor très en profondeur avec des cubes blancs qui forment un amphithéâtre. Les gradins sont assez mobiles, donc permettent à la fois de faire des escaliers et de modifier un petit peu l'espace, mais ça reste quand même assez fixe. Et absolument toutes les issues et les entrées sont utilisées puisque diverses surprises vont arriver à la fois des airs, de cour et de jardin. Il y a une porte derrière, il y a une trappe aussi, il y a beaucoup d'objets qui vont parvenir du dessous de la scène. C'est très coloré.
Le décor de base est blanc, justement.
Voilà. Oui, il y a des lumières quand même assez franches.
Le décor est blanc.
Oui,
lui.
Tout à fait.
Et il sera
le décor est blanc, mais
coloré
il est largement
par divers artifices.
Voilà. C'est difficile, je trouve, de parler parce qu'il ne faut pas gâcher les surprises. Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup. On peut en divulgâcher une ou deux, peut-être. Sentiment général sur cette mise en scène, Emmanuel Giuliani ?
Eh bien,
Par rapport aux travaux, si je puis dire, non pas d'Hercule, mais du duo Christian Eck, Valérie Le Sor, qu'on avait pu voir peut-être, certains de nos auditeurs aussi, à l'Opéra Comique, avec le Domino Noir d'Aubert, et puis cette mise en scène qu'ils avaient fait de 20 000 lieues sous les mers au Vieux Colombier, si je me rappelle bien.
Absolument.
J'avoue que je m'attendais à beaucoup, beaucoup plus de surprises, d'inventions, de créativité, de féerie. Notamment dans la première partie, les trois premiers actes, où il se passe des choses, mais pas tant que cela. Il s'en passe tellement plus dans la musique, m'a-t-il semblé, que sur la scène, que ce décalage, vite, je me suis dit, mais sont-ils un peu en panne d'inventivité ? Dans la deuxième partie, après l'entracte, les deux derniers actes, ça s'étoffe un peu, notamment avec quelques mouvements d'ensemble. Mais quand même, globalement, je les ai trouvés en petite forme.
Ah bon, Charles Ardenne.
Alors, je suis à 100% d'accord avec mes camarades, notamment Emmanuel, par rapport à la musique. Mais pour,
on parlera de la musique dans un instant.
On parlera tout à l'heure, bien sûr. Mais pour ce qui est de la mise en scène, moi, j'ai vraiment eu le sentiment inverse. Au contraire, j'ai eu l'impression d'un enchaînement continuel de surprises, d'innovations, de choses féeries, étonnantes, amusantes, qui suivent d'ailleurs littéralement en fait toutes les péripéties de cette histoire, de ce livret qui est là pour en mettre plein les yeux, plein la vue, avec plein de caractères différents, d'épisodes, etc. Et même pour être honnête, au début, il y avait tellement de surprises, tellement de personnages, j'ai vraiment pas envie de les divulgâcher parce qu'en effet, le bonheur, c'est de les découvrir à quasiment toutes les trois minutes. Il y a une nouvelle vision, une nouvelle proposition, un nouveau costume, un nouvel accessoire éclairé dans un rayon de lumière qui arrive comme ça.
Par rond de ses os.
Exactement.
À chaque fois.
Bah justement, et là, c'est vraiment un tour de force qu'ils ont fait, parce qu'il faut voir que la salle Favart, c'est pas du tout la salle des machines. Au niveau des dégagements, salle Favart, il n'y a pas de dégagement, pour ainsi dire, latéraux et arrière. Et donc là,
c'est-à-dire qu'on
ne
peut pas beaucoup mettre de décor de côté ou
exactement, au-dessus. Exactement. Hein. C'est une de ses spécificités, un de ses enjeux les plus complexes. Et donc, ils arrivent à faire tout ça grâce aux cintres et aux trappes qui sont magistralement utilisées, selon moi.
Lucille Comot, cette mise en scène de Valérie Le Sor et Christian Eck.
Oui, il y a vraiment un plaisir du rouage et de la machine, et c'est assez intelligent pour cette pièce-là qui est une pièce à machine, c'est-à-dire que toute la dramaturgie fonctionne uniquement sur à la fois des cachettes, des multiplications des espaces, puisque les dieux et les déesses sont là, donc il y a plusieurs niveaux en permanence qui sont convoqués. Et puis ce fameux, on va en reparler, canapé qui, siège, mais qui en fait là est un canapé qui surgit d'une trappe, qui est vraiment l'élément central du décor, puisque c'est grâce à ce siège inventé par Vénus que Hercule doit séduire Iole, et qui est en fait un programme en soi, et qu'ils prennent littéralement comme le programme de la pièce. Moi, je trouve ça très intelligent d'utiliser autant la machine. Et certes, ça ne cesse d'arriver, c'est-à-dire que en effet, ce sont des surprises, mais c'est tout le temps la même chose. Ça fonctionne. En revanche, je pense que la musique est trop longue. Je pense que la pièce est trop longue.
Alors, c'est ça la question, parce que moi, je ne les trouve pas du tout en petite forme, mais je pense que c'est, pour le coup, c'est peut-être un des travaux d'Hercule que de réussir une mise en scène d'un ouvrage qui fait plus de 3 heures de musique, ou 3 heures et un tout petit peu plus. Comment on monte aujourd'hui un opéra de la sorte ? Alors, on le fait, on peut dire, à l'ancienne, et c'est tout à fait formidable, en mode bougie, enfin candélabre, et costume à crinoline, où on peut, il y a d'autres options, faire comme Valérie Le Sor et Christian Eck, c'est-à-dire à la fois jouer sur le merveilleux, mais au sens le plus artisanal, ce qu'ils font ici, même si ça requiert une grande technicité, je n'en doute pas, de travailler les costumes, travailler les couleurs, travailler les surprises, mais au bout du compte, même si le livret offre certes des possibilités de surprises nouvelles, mais ça me semble quand même être un travail particulièrement dur. Et je me demandais effectivement, assistant à la représentation, s'il n'aurait pas mieux valu couper quelques scènes ou quelques séquences, ou essayer de tailler un petit peu, parce que si on se régale à la fosse, on en parlera ensemble, c'est quand même un sacré boulot pour les metteurs en scène. Vous ne croyez pas que c'est quand même ça aussi la difficulté le domino noir, c'est beaucoup plus court dans mon souvenir, nettement, très nettement.
Mettre le deuxième acte de Tristan en scène, où il ne se passe pratiquement rien. Voilà.
On n'a pas vu beaucoup de bonnes mises en scène de Tristan.
Je veux dire, c'est pas propre, en effet, à ce type d'ouvrage. Moi, il me semble, mais que qu'au contraire, même si les situations, bien sûr, sont très stéréotypées, les caractères, les psychologies sont incroyables, on change en une seconde de l'amour fou à l'impression d'être trahi et on maudit celle ou celui qu'on a adoré une seconde plus tôt, bien sûr. Mais justement, il y a tellement de variété dans les récitatifs, les airs, les ensembles, les chœurs. C'est à géométrie variable constante, l'instrumentation sur laquelle a beaucoup joué. Il a fait vraiment une vision très très opulente de l'orchestre, Raphaël Pichon, avec tout un jeu de timbres. Je pense que c'est le travail, et je ne dis pas qu'ils ne l'ont pas du tout accompli, mais il me semble qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, des metteurs en scène, de trouver visuellement un équivalent sur les jeux de lumière, sur le jeu d'acteur, qui là est sympathique, mais quand même assez sommaire, et une idée comme le canapé dont parlait Lucille, qui est vraie et très forte, il y en a quelques-unes comme ça, mais en effet, sur les 3h30, il y en a finalement peu, où c'est la même qui se renouvelle. Et je pense qu'il y avait moyen d'aller un peu plus loin. Et moi, il me semble qu'il n'y a rien à couper dans la musique, tant elle est belle.
Enfin, non, mais que la musique soit belle, c'est une chose. Mais sa version scénique, Lucille Comeau ?
Mais ce même qui se renouvelle dans la mise en scène, il correspond, je pense, assez profondément à une interprétation juste de ce qu'est cette musique aussi. Ça n'a rien à voir avec Tristan, aussi parce qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. Il y a quelque chose dans l'acte 3, dans l'acte 4, dans l'acte 5 aussi, qui fait un peu succession de tableaux. D'ailleurs, on perd des personnages qu'on retrouve largement après, et ça finit par former une forme de, c'est très anachronique ce que je veux dire, mais de pièce à sketch, que ça devient aussi par la mise en scène. Mais je pense que de ce point de vue, la mise en scène est juste. Elle ne fait que suivre la construction dramaturgique de l'ouvrage.
Il y a du tragique qui arrive.
Charles Ardenne, encore un mot sur la mise en scène.
Mais pour moi, j'ai vu des surprises constantes et permanentes dans cette mise en scène. Je disais, je ne voudrais pas en divulgâcher, mais ce qui est fait du Pan, de Neptune, des tombes, des sous-marins, des montgolfières, enfin, littéralement, ça n'arrête pas, c'est constant. Et en effet, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est très lié à la manière dont est faite cette musique, qui enchaîne comme ça des scènes de genre, des morceaux de caractère, des berceuses, des cansonnettes, des ritournelles, etc., etc. Il y a une diversité sans cesse merveilleuse. Est-ce qu'ils auraient dû couper ou pas? Bon, d'accord, c'est un débat. Le fait est qu'ils ont gardé ça en entier et que s'ils le font en entier, je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire, parce que sinon, vous disiez, comment on le fait d'habitude? On le fait en version de concert d'habitude, pour éviter le défi.
Et on n'a pas les ballets de Lully, parce que
écoutons un extrait du prologue enregistré, je le souligne bien, lors de la générale à l'Opéra Comique.
Thank you.
Voilà pour cet extrait du prologue d'Hercule amoureux enregistré lors de la Générale à l'Opéra Comique. Représentation se poursuit bien sûr jusqu'au 12 novembre. La première, c'était hier soir. Parlons musique, Charles Ardenne.
Bah, comme je le disais, la musique, moi, m'a autant ébloui que la mise en scène par cet enchaînement savant des différentes scènes de genre, des différents numéros, des différentes surprises. Évidemment, c'est pas le même caractère entre Raphaël Pichon, le chef d'orchestre, et puis les artisans de la mise en scène, monsieur Eck et madame Le Sort. Valérie Pichon, tout est en maîtrise, tout est
Valérie
en...
Pichon, tout
d'accord. Pardon.
Très bien. Raphaël Pichon. Le Sort.
Bon. Autant pour moi. Raphaël Pichon, tout est en contrôle, tout est en maîtrise, tout est unifié, j'allais dire malgré les différences de caractère, non plutôt tout en respectant les différences de caractère. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différence de caractère? On passe vraiment de berceuse, langoureuse, très très douce, à des moments bruitistes où même les musiciens se tapent sur les cuisses pour accompagner les machines à vent
la pluie.
Et venir de la tempête, etc. Exactement. Il y a toujours quelque chose, mais c'est toujours maîtrisé. C'est assez impressionnant de voir comment Pygmalion arrive à enchaîner les projets, mais à chaque fois avec une cohérence et un travail aussi détaillé.
Emmanuel Giuliani.
Oui, tout à fait. À la fois, c'est très souple, c'est très libre, comme vous le dites, Charles. C'est vraiment sous contrôle, avec une précision diabolique. Mais ça coule de source. Moi, j'étais particulièrement sensible à l'équilibre dans les ensembles. Les chœurs de Pygmalion étaient absolument formidables, comme bien souvent. Les ensembles, notamment, qu'on entendait d'ailleurs dans le ballet de la nuit que Sébastien Dossé avait gravé et représenté il y a quelque temps. Ce trio pour appeler au sommeil, qui est un moment, mais peut-être un des plus beaux moments de toute l'histoire de la musique. Ils l'ont fait hier, c'était à... absolument admirable. Alors évidemment, ça met aussi beaucoup en relation, et après, selon ses prédilections, on se rend compte que le charisme et l'éloquence de certains chanteurs passent plus ou moins en fonction des rôles. Mais c'est vrai qu'orchestralement, le regroupement aussi, la manière dont il y a le quartier des vents, le quartier des cordes pincées, les cordes frottées de l'autre côté, tout ça se répond, dialogue. Il y a vraiment il y a une véritable ivresse sonore.
Ivresse partagée par Lucille Comeau, qui va aussi enchaîner avec du coup le plateau vocal, mais en parlant de l'orchestre bien sûr aussi d'abord.
Oui, ça s'entend, et puis il y a vraiment quelque chose de ludique qui passe, et y compris en effet visuellement, ça m'a frappé. Je voyais vraiment bien la fosse, ils sont très nombreux, j'ai été assez surprise par l'effectif, il a choisi quelque chose de très ample, et ça passe d'un instrumentiste à l'autre et d'un coin en effet à un autre de manière vraiment très fluide, et puis lui, son enthousiasme est vraiment... Ça passe, quoi. Et les chanteurs, c'est très convaincant. J'ai eu un petit peu peur au début pour certains, notamment pour Iole, que j'ai trouvé un petit peu en dessous de son partenaire masculin ténor qui la couvrait vraiment hier dans le premier duo. Mais tout s'épanouit assez globalement. Mention vraiment particulière pour moi pour la Déjanire de Giuseppina Bridelli, que j'ai trouvé formidable, qui a une voix vraiment assez inédite, je trouve. J'ai pas les mots, moi, techniques pour décrire les voix aussi bien que Charles ou Emmanuel, mais elle a vraiment une voix très singulière et elle
une
a
présence
un rôle
scénique aussi
très particulier.
Formidable.
Voilà.
Elle a tout.
Il y a un duo dans la, je crois que c'est à la fin de l'acte 3, où le rideau tombe sur ce duo entre elle et son fils, qui est un des moments, pour le coup, vraiment tragiques, assez poignants de l'ouvrage, parce qu'il y en a plusieurs. Et ce duo-là est sublime. Elle a une voix incroyable.
Oui, absolument, avis partagé. Un gros faible aussi pour la basse qui incarne Neptune et l'ombre du roi père, donc
c'est de la basse.
De Iole. Oui, à la fois c'est de la basse, mais de la basse pas électroménagée. Les basses, c'est un peu l'aspirateur.
C'est très rare.
C'est très timbré. C'est fait en plus avec une espèce de plaisir du chant et de l'incarnation absolument formidable. Et puis vous avez cité Illus, Christiane Adam, qui est peut-être même encore un magnifique Orfeo et qui a un style, une éloquence, une élégance.
Mais ce qui n'est pas facile avec l'accoutrement.
Avec, il a un costume qui fait entre Prince Douib ou sortie du terrier d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a un petit mélange comme ça. Mais il a un style, c'est un chanteur. Moi, je trouve que dès qu'il ouvre la bouche, il est captivant. Et puis d'autres tout à fait bien. La belle Junon de Anna Bonita Tibus, même si la voix voix n'est pas toujours idéale, mais elle a, elle garde cette espèce de présence. Voilà.
Charles, allez, un tout petit mot là aussi sur le plateau vocal, pour conclure la séquence.
Alors, en effet, Déjanire, Giuseppina Bridelli, très importante dans la dramaturgie, parce que c'est elle qui amène la dimension tragique. Et en effet, cette voix très assise, très déployée, avec une grande rondeur, l'inscrit dans la lignée des tragédiennes monteverdiennes. Monteverdi, c'est l'illustre maître de Cavalli.
On y vient dans un instant.
Et on y arrive, la transition. Donc là, vraiment, on a une Déjanire dans la droite ligne des Ariane, Pénélope, Octavia, dont on parlera tout à l'heure. Et puis, quand même, à tout seigneur, tout honneur, Hercule.
Quand même.
Il lui manque juste.
Mawel di Piero.
Ouais, il lui manque juste les notes les plus graves, parce qu'on n'a pas des basses aussi profondes.
Non, mais elles sont très, très, très graves.
Elles sont extrêmement.
Il devrait avoir un écart. Enfin, ça sera.
Mais c'est la seule chose. C'est la seule chose qui lui manque. Franchement, le reste est somptueux. Il y a une douceur dans l'articulation, dans le médium. Enfin, c'est fantastique.
Hercule amoureux, Ercole amante de Cavalli. C'est dirigé par Raphaël Pichon, mise en scène Valérie Le Sor et Christian Eck. C'est jusqu'au 12 novembre à l'Opéra Comique. Ce sera donné les 23 et 24 novembre à l'Opéra de Versailles. Ce spectacle, on pourra le voir en ligne sur Arte Concert dès le 12 novembre. Il sera diffusé à 20h le samedi 30 novembre sur France Musique, puisque vous avez cité Mawel di Piero. Sachez qu'il sera un disque de tango, milonga et valse, tout ce que j'aime. C'est chez Audax Records. On va parler de Monteverdi, on va parler d'Offenbach et on va parler de Reinaldo Hahn dans la suite de cette émission.
France Culture, la dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette émission avec le couronnement de Poppée de Claudio Monteverdi, qui précède de quelques années ce Ercole Amante, nous avons parlé précédemment, puisque l'opéra de Monteverdi en un prologue et trois actes a été créé lui en 1642 à Venise. C'est un récit d'après les annales de Tacite, et pour continuer à célébrer les 40 ans de son ensemble des arts florissants, William Christie a choisi la partition de Venise et non celle de Naples, avis aux amateurs et aux spécialistes. Dans les deux cas, d'autres mains ont sans doute contribué, et peut-être même celle de Cavalli, mais on n'était pas là pour le voir. C'est un spectacle qui a été capté au Festival de Salzbourg en 2018. On retrouve cette œuvre donc en 3 CD ou et un DVD, hein, c'est dans le même coffret, encore heureux. Peut-être qu'on va parler rapidement du DVD pour nous concentrer quand même ensuite sur la musique. Tout ça, c'est chez Harmonia Mundi, je ne l'ai pas dit. Le DVD, il permet de découvrir la mise en scène de Jan Lowers. Aura-t-elle cette mise en scène des défenseurs autour de cette table? Moi, j'ai encore le tournis. J'avais un peu de nausée à voir ces danseurs tourner. Disons que la rencontre m'a paru pour moi un peu improbable. Emmanuel Giuliani, pour vous?
Alors, c'est un spectacle que j'avais vu à Salzbourg.
Ah, très bien.
Et que j'avais, pour changer, détesté.
Scéniquement, hein, on parle.
Scéniquement, oui, non.
Oui, on va parler de musique, voilà. Vraiment beaucoup.
Mais... parce que les bonnes idées de beaucoup de vie, beaucoup de présence, un côté très baroque, dans des amoncellements de corps qui peuvent évoquer un peu ces sculptures en stuc dans les grands hôtels AU, des églises peut-être.
Ouais, ça pourrait être aussi dans les grands hôtels.
Et le problème, c'est que l'accumulation passait de AU à HO,
ouais.
Un peu.
Et il a chaud, oui, cette mise en scène.
Et donner le tournis avec ce danseur qui se, ou cette danseuse, qui se relaie pour faire le derviche tourneur en permanence au milieu, enfin au milieu.
En perdant souvent des habits en route.
Voilà,
c'est ça
en perdant des habits en route. Métaphore du passage du temps, du destin, je n'en sais rien. Mais tout ça est tellement agité, tellement appuyé, tellement regardé comme je suis génial et je comprends tout de la force et de la subversion de cet ouvrage, qu'au bout d'un moment, on criait grâce. Le DVD, ne pouvant pas tout montrer, élague par contrainte, finalement, le trop, il ne reste plus que le trop, ce qui est déjà trop,
ce qui est déjà pas mal,
mais bon.
Ouais, il en reste trop, et notamment dans ce qui est demandé aux interprètes. Pas s'apesantir, on entendra, ce sera beaucoup mieux, Sonia Yoncheva et Katlin Sey. Il vaut mieux les entendre peut-être que les voir, Lucille Comeau.
Oui, oui, c'est un peu gênant, c'est évident, c'est assez gênant, et notamment, c'est très, moi je trouve ça très intéressant, cet objet, hein, d'écouter puis de voir, parce que il y a un niveau de redondance dans la mise en scène qui est, en fait, tout est inutile. L'objet musical est tellement magnifique, les voix sont tellement belles,
et
sont
pas tellement de faire des mises en scène, hein.
Bien sûr. Sauf que là, la mise en scène appuie, disons, vulgairement et mal sur des choses qui sont déjà présentes dans les voix, et notamment la charge érotique de tout l'ouvrage. Et des voix en particulier de Sonia Yoncheva et de Lindsay. Là, c'est assez catastrophique. Elles sont en nuisette. Enfin, bon, moi, les nuisettes à l'opéra, là, je vais être comme Emmanuel Dupuis qui appuie toujours sur ce bouton-là. Mais vraiment, Sonia Yoncheva en nuisette qui fait des mous pas possibles, qui tire la langue, c'est absolument impossible. Alors que dans sa voix, la charge sensuelle est présente et sublime. Ça sert à rien.
Charles Ardenne.
Eh ben, j'ai pas eu la chance de le voir à Salzbourg et j'avais fait un peu mon maximum pour pas justement avoir trop d'images en tête et pour faire l'exercice.
C'est bien, Charles, bravo.
Ouais, de commencer par le disque pour ensuite aller au DVD. Donc j'ai vraiment écouté, réécouté en détail le CD, laissant mon imagination aller dans tous les sens. Et ensuite j'ai regardé le DVD. Et j'ai adoré, c'était fantastique, c'était merveilleux.
C'est
parce
bien,
que,
ah ouais, c'est bien, il faut qu'il y ait des paroles différentes.
Et là, je l'ai revu, réanalysé avec, enfin, il y a vraiment énormément de choses qui sont bien vues, qui sont travaillées, qui sont détaillées. Et vous disiez, ça en fait trop, ça en rajoute. Bah, dans ce cas-là, voilà, tant mieux, il y a le disque, vous pouvez écouter juste l'audio. Et quand on a le DVD, on a cette surcharge de corps, mais qui nous souligne justement ce qu'est l'Empire romain à cette époque, toute la sensualité de cet opus ultime de Monteverdi, ses corps,
classe.
Tourne,
on n'est pas sûr. Hein.
Non, classe,
ah, non,
non, bah,
non. Justement, ça montre aussi littéralement une back room. Vous avez des vidéos qui filment en direct des choses un peu bizarres en noir et blanc dans l'obscurité
pas bizarre, hein.
qui
c'est
se
pas
passe
bizarre,
au fond. Hein. Il y a des choses, bon, qui, moi, me sont pas habituelles mon quotidien.
Ouais, ouais.
Cette surenchère de corps.
Parce que vous êtes trop jeune pour avoir connu les téléfilms érotiques d'M6 le dimanche soir.
Ah ouais, avec le petit carré rouge en bas à droite, j'ai fait des recherches d'archives, c'est pour ça.
Ouais. Non, mais c'est cette esthétique-là, il faut quand même le dire aux auditrices et auditeurs qui nous écoutent. C'est quand même d'un niveau.
Il y a une précision. Et dans la danse, les chorégraphies, mais c'est très intéressant. Là, c'est un mélange intéressant, contrairement au raté des Indes Galantes, là, qu'on a vu à Bastille récemment. Là, ça mélange différents styles. Ça utilise du hip-hop, ça utilise du voguing, ça utilise du popping.
Mais Yann Auer, ça fait de très, très beaux spectacles. Il continuera sans doute d'en faire.
On voit qu'il maîtrise plusieurs disciplines.
Ça se rencontre pas vraiment ou ça se rencontre mal. Mais en tout cas, c'est bien qu'on ait une voix discordante. C'est bien le principe de cette émission. On peut écouter de la musique maintenant. On va écouter effectivement Sonia Yoncheva, Popé et Kepkinse, Néron.
Thank you.
Couronnement de Poppée par William Christie et les Arts Florissants. 3 CD, sinon rien. Lucille Como, pour commencer sur cette musique, cet enregistrement.
Oui, moi je trouve la beauté assez écrasante même dans l'ouvrage. Bon, déjà, c'est un opéra qui est incroyable. On parlait de Cavalli avant. Là aussi, il y a une ampleur, il y a un nombre de fils narratifs qui ne cessent de se déployer. Même on a l'impression que ça pourrait continuer de manière exponentielle. Il y a un duo amoureux qui se crée au milieu entre un valet et une jeune fille. Mais ça sert à rien, c'est juste là, un petit tableau en plus. Je trouve que vraiment, au niveau de l'expressivité des voix, de ce qui se passe dans les voix, je vois pas bien ce qu'on peut faire de mieux que ça. Je trouve ça très beau. Emmanuel Giuliani disait hors antenne que c'était faux. Il y a peut-être des choses sur, oui, voilà, il y a peut-être souvent des choses sur la justesse, mais je trouve que, de manière générale, c'est tellement articulé, c'est tellement parfaitement timbré. J'ai l'impression que tout est pensé, en fait. Que vraiment, tout est pensé. Chaque syllabe, chaque vers est pensé. Et ça nourrit, ça donne une richesse dramaturgique qui est quand même assez inédite.
Chère Adrienne, je vous avais demandé de nous préparer une petite présentation de cette partition et de ses particularités. J'ai oublié de vous donner la parole en premier. L'esprit de synthèse qui vous caractérise, vu l'heure qu'il est, va nous servir.
Ah oui, en présenté synthétiquement, allez,
on va s'accrocher. De toute façon, c'est synthétique, les présentations.
Absolument. Ce qui caractérise, on pourrait dire, cette partition, c'est justement l'unité dans sa richesse de caractère. C'est ça qui fait le génie de Monteverdi, c'est ça qui fait aussi que c'est son ultime opéra, son ultime chef-d'œuvre. C'est qu'il y a une très très grande palette de styles, de caractères, d'émotions, d'intentions, toutes les formes de la récitation, de l'arioso, des ensembles qui structurent l'opus, mais tout est unifié, il y a une continuité du propos musical. C'est la différence avec l'Ercole Amante, par exemple, de tout à l'heure, qui avait été beaucoup plus séquencé, beaucoup plus divisé. Et donc, comme le dit Lucille, il y a quasiment rien à redire sur le travail musical, parce que il y a le respect de ces différents caractères, il y a l'implication, il y a le travail dans le détail, mais en même temps, il y a une notion de la continuité du propos, il y a une harmonie générale, il y a une beauté, il y a un grand jeu des contrastes, c'est-à-dire que les passages doux sont quand même riches, les passages intenses sont quand même ciselés. Pourtant, il faut quand même dire, au niveau de l'expérience de l'auditeur, c'est un peu étonnant au début quand on écoute le CD, parce que ça fait captation de spectacle. Donc c'est pas du tout un produit lisse, bien travaillé en studio. On entend des écarts de dynamique, on entend des entrées
étonnantes. On entend l'espace,
étonnantes.
En fait.
Exactement, on entend l'espace. Et puis, le processus, la construction scénique divise la fosse en deux. C'est un choix qui est étonnant, mais qui pose des problèmes, des fois, de synchronisation, mais qui renforce aussi une dimension de dialogue qu'il y a dans cet opus. La partition, elle est construite sur le dialogue, dans la fosse, comme dans les duos entre les différents personnages.
Emmanuel Giuliani, sur cette production, musicalement parlant.
Alors, le travail de William Christie, qui a choisi un effectif assez réduit pour vraiment travailler dans la finesse des timbres de l'orchestre. Bon, c'est un ouvrage qu'il connaît très très bien et vraiment, il revisite les Monteverdi maintenant qu'il est avancé dans sa carrière. Et c'est quelque chose d'une très grande, à la fois d'une très grande probité, d'une très grande fraîcheur, d'une simplicité, justement, qui va à l'encontre de ce qu'on a vu scéniquement. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très convaincant et très très touchant et très émouvant, parce que c'est un opéra où il y a aussi des grands moments d'émotion à travers notamment le personnage d'Octavie, l'impératrice répudiée, qui est une méchante aussi, mais qui est une méchante malheureuse, donc on l'aime mieux. Et puis de Drusilla, ce personnage merveilleux qui est prête à se sacrifier par amour. Vocalement, il y a des moments
Vous n'êtes pas fan, vous, de
moi
de
je ne suis pas fan du duo, voilà, de cette popée de ce Néron, même si le disque rééquilibre la différence entre les deux voix, parce que Sonia Ioncheva a une voix beaucoup plus opulente que Kate Lindsay, et en direct, on avait un peu l'impression de la mère et du petit garçon. Là, ce n'est plus le cas, c'est mieux rééquilibré. Je trouve que c'est un
Mais vous préférez Stéphanie Doustrac.
Très, très prof. Je préfère Stéphanie Doustrac, tout à fait, qui fait une Octavie vraiment très impressionnante. Et Carlo Vistoli, dont je trouve l'automne est d'une extrême sensibilité et qui donne justement une chair et une proximité à ce beau caractère.
Votre préférence, Lucille Como, sur le plateau vocal, et nous sommes très en retard.
Sonia Yontcheva écrase quand même vraiment en effet beaucoup, à peu près tout le monde, parce qu'elle a un timbre d'une richesse incroyable. Moi aussi j'ai eu des difficultés avec Kate Lindstedt. Au début je trouve ça un peu pincé, mais je pense que c'est voulu, et je trouve justement qu'elle s'en sort mieux dans les duos avec Sonia Yontcheva, parce qu'il y a quelque chose qui s'équilibre de contraste, je pense, qui est assez intelligent, au final, étant donné le drame qui se noue.
Et enfin, Charles Ardenne.
Yontcheva, oui, évidemment, là encore, l'expérience au disque. Déjà, rien qu'au disque, on l'entend arriver, on voit arriver l'opulence. Alors,
on l'entend respirer, on
dit
déjà ça.
En DVD, je n'en parle même pas. Et j'aime bien sa confrontation avec la Kate Lindsay. En effet, ça marche certainement mieux au disque, mais Kate Lindsay qui a un jeu très souple et une voix tout de même très expressive. Doustrac qui montre que voilà, sa voix a acquis une ampleur maintenant qu'elle fait des Carmen, qu'elle fait des Cassandres. Et un gros coup de cœur pour la nourrice. Voilà, dans le genre de ces rôles, mais absolument géniaux qui sont chez Monteverdi. Plein de caractères différents. Très, très maîtrisés par Marcel Bickmann.
Et ça aurait pu être une question du jeu de la dispute, c'est Dominique Wyss qui fait le lien, qu'on retrouve le contre-ténor à la fois dans cette production du couronnement de Poppée et de Ercole Amante. Ce couronnement de Poppée en DVD et en CD, enregistré par les Arts Florissants avec William Christie, c'est chez Harmonia Mundi. C'est l'heure du coup de cœur, un coup de cœur un peu en retard dans l'horaire habituel d'Emmanuel Giolini pour l'intégrale des mélodies de Reinaldo Hahn chez Bruzzane. L'intégrale, rien que ça.
Et pas tout à fait l'intégrale, l'intégrale de ce qu'il fallait faire. Je vais être très rapide, prenez une RTT, etc. Mettez-vous vous calmement ou avec des gens que vous aimez et écoutez tous les CD de ce coffret très joliment édité, comme toujours, par le Palazzetto Bruzzane, et vous entendrez un dialogue dans des œuvres absolument merveilleuses de musique légère ou au contraire beaucoup plus profonde, voire mélancolique ou même pathétique. Vous entendrez un duo de complices, le pianiste Jeff Cohen et le baryton Stassis Christoyanis, qui vraiment nous promènent dans cet univers fin de siècle, un peu décadent par moment, mais tellement aussi dans la lignée de toute cette romance et cette mélodie française que Reinaldo Hahn savait si bien honorer, avec souvent de très beaux poèmes mis en musique. Et vraiment, c'est une splendeur.
Un petit goût comme ça, avec un extrait de la Barchetta.
Voilà, qui évoque Venise.
La notte bella fa presto lineta, andemo in barchetta, i freschi a ciapar. A tonico dico che il fel se ne cava, per goder sta bava che subbia dal mar. Contarsela sonetti in laguna e al chiaro de luna sentirsi a vogar. Ti pone la ventola far senza mia cara che i zefiri a gara te vol sventolar.
le reste sur l'intégrale ou presque des mélodies de Reinaldo Hahn chez Bruzzane.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Le dernier sujet de notre sommaire, c'est un disque Offenbach Sidio pour violoncelle gravé par Anne Gastinel et Xavier Phillips pour la Dolce Volta. Il faut rappeler que le futur auteur de La Belle Hélène, La Vie Parisienne ou des Contes d'Hoffmann a d'abord été connu comme un virtuose du violoncelle. Il a publié entre 1839 et 1855 son cours méthodique de duo pour deux violoncelles. 6 volumes, difficulté croissante. Vous êtes à quel livre, Emmanuel Giuliani? Non, c'est blague à part. C'est quoi le programme de ce disque?
Alors, c'est un choix parmi ce corpus, donc de A à F, A comme aisé jusqu'à F comme...
Pas fastoche,
oui, c'est ça. Ou fortiche, peut-être.
Ouais, fortiche, oui.
Voilà, et donc...
Ouais, super difficile.
Et donc, un choix qu'ont fait donc les deux interprètes parmi ce large corpus pour montrer, ben voilà, cette facette du grand talent de celui qu'on appelait donc le Paganini du violoncelle ou le Liszt du violoncelle. C'est dire si Offenbach jouait bien. Il a d'ailleurs commencé en France comme violoncelliste dans des orchestres d'opéra comique. Voilà, et donc, alors, ce disque promet beaucoup de plaisir dans la promenade qu'on va faire dans ce répertoire qui est très aimable à écouter, très varié, qui danse et qui chante, même si c'est de manière instrumentale. J'avoue que la réalisation m'a un peu laissée sur ma faim, notamment au point de vue sonore. Je trouve que la sonorité des deux instrumentistes, peut-être est-ce aussi une prise de son très proche, je ne sais pas, n'est pas aussi moelleuse, sensuelle et voluptueuse que je l'espérais.
Alors, voilà. Pour savoir si vous avez les mêmes oreilles qu'Emmanuel Giuliani, un extrait de ce disque Offenbach. C'est peut-être pas effectivement la plage qui donne le mieux à entendre cette question que vous évoquiez, Emmanuel Giuliani. Peut-être les passages des plus lents ont quand même une chaleur, une proximité qui, elle, est plutôt belle, et que c'est plutôt quand ça va plus vite, on en reparlera.
Et dans l'aiguille.
Et dans l'aiguille, que ça sonne différemment. Mais Lucille Gomeau a une théorie. C'est un nouveau jingle là, que je... Bon, c'est tout comme
non, non, une théorie. Ma théorie, c'est que je suis suffisamment prof et sadique dans ma tête pour aimer entendre la difficulté de la virtuosité. Et là, en plus, comme il s'agit d'un programme d'études, je pense qu'il y a quelque chose d'assez profondément ludique à l'écoute de la difficulté constante. Moi, j'aurais aimé, parce que je suis vraiment folle, avoir l'intégrale et dans l'ordre. Donc A, B, C, D, E, F pour vraiment entendre. Ce qui n'est pas le cas là, parce qu'ils ont modifié l'ordre des pièces. Non, ceci dit, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une curiosité quand on écoute le disque. Moi, j'ignorais totalement l'existence de ce programme-là. Donc, on écoute en se disant, oh tiens, ça ressemble en effet à du Offenbach d'opérette, parce qu'en plus, le violoncelle ressemble quand même beaucoup à la voix. Donc, il y a des choses de timbre qui peuvent rappeler de la chanson, des airs d'opérette. Et puis, je m'y suis prise. Je trouve que c'est plus que ça n'en a l'air, notamment cette étude qui est jouée en entier, pour le coup l'étude E, offre une assez belle cohérence, je trouve, dramatique. On passe de quelque chose de très lyrique à des choses assez comiques, et c'est là que peut-être je défendrais le côté un peu aigre ou très un peu sec dans les aigus. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez drôle, en fait. On entend qu'il s'amuse quand même beaucoup.
Ça me fait pas rire, Emmanuel Giuliani, laissez-moi vous le dire.
Moi, je trouve ça assez drôle et je trouve ça assez cohérent. Je trouve que c'est un beau projet.
Charles Ardenne.
Moi, je trouvais que le projet restait un peu au milieu du gué, et c'est assez problématique pour ses œuvres, parce que c'est comme on l'a dit un cours méthodique, mais qui en même temps est fait par un génie dans l'éclosion. On sait les pages exceptionnelles que Offenbach a léguées au répertoire, évidemment dans ses opérettes, ses opéras bouffes, mais aussi comme les Larmes de Jacqueline par exemple, ou son concerto dans des pièces de chambre ou symphoniques. Et là justement, je trouve que les deux interprètes, ils choisissent pas vraiment. Je sais pas vraiment si ils le jouent comme une méthode ou s'ils veulent en faire une vraie œuvre. Ils choisissent en effet pas de faire tous ces duos, donc ils passent sur les lettres ABC en disant les lettres ABC elles sont pas très intéressantes, il se passe pas grand chose, c'est des trucs d'élèves. Mais justement, ça aurait été l'intérêt de montrer cette progression, cette évolution, et d'essayer d'en faire quelque chose. Ensuite, on a la lettre E en effet, donc qui ouvre l'album, mais à l'envers. On commence par troisième, puis deuxième, puis premier livre. Ensuite, on a un bout du F, le C, le D. Voilà. Moi, j'ai eu l'impression que cet album était surtout en deux parties. Donc la première partie E, un peu, c'est facile, mais E, un peu comme ennui. Mais après, je l'ai réécouté, donc un peu plus comme réestime, on va dire, relative. Et ensuite, lettres F, C et D, donc qui sont censés être de virtuosité très différentes. F, c'est censé être très difficile, alors que D, c'est censé être un peu moins difficile, brillant, dit Offenbach. C'est pas la virtuosité qui est la plus intéressante, c'est la manière justement dont ils assouplissent, dont ils allègent, dont ils travaillent un peu plus leurs instruments, la douceur, le velours. Et le crin, plus en souplesse. C'est pour ça qu'on a choisi notamment cet extrait qui est de la première partie, mais qui nous amène vers les beautés de la seconde. Et la fin du disque m'a beaucoup bien davantage plu.
C'est vrai que c'est compliqué par rapport au programme même de ce disque. Je reprends un peu l'idée de Lucille Comeau. Pourquoi ne pas faire entendre tout? Alors, on peut se dire que l'éditeur Dolce Volta a peut-être pas les moyens de faire un coffret et peut tabler sur des ventes qui sont peut-être pas qui seraient pas de nature à combler le coût de pareil projet, et en même temps, pourquoi le faire si c'est le faire à moitié? Il y a ce problème-là, Emmanuel.
Oui, et à la fois, si nous nous posons la question, c'est parce qu'on n'a pas été emporté du début à la fin.
Non, mais moi, ça m'intéresse, le projet.
Oui, bien sûr, mais si ce montage qui peut nous paraître, en effet, comme vous le dites, au milieu du guet, où est-ce qu'on est dans l'étude, dans la pièce d'étude, la pièce de concert, les deux, etc. Si l'interprétation nous avait pris de bout en bout, on se poserait la question, mais c'est parce que ce serait accessoire.
Charles Ardenne.
Très rapidement, moi aussi, je suis très intéressé par le projet, sauf que pour une fois, il y a un livret qui dit deux, trois choses. Et le problème, c'est qu'ils nous expliquent que le projet était très peu préparé. Ils expliquent verbatim qu'ils ont eu pas beaucoup d'occasions de jouer ensemble. Ils savent pas trop s'ils ont la même sonorité. C'est un vrai défaut quand on construit un projet vis-à-vis de ce travail de disque.
Lucille Comeau.
Ils disent quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que la virtuosité, elle se situe pas forcément là où on l'attend. Et c'est souvent assez difficile pour le violoncelle, qui a la partie a priori la moins virtuose, d'accompagner les parties extrêmement virtuoses d'un instrumentiste qui est le même, qui a le même instrument que soi. Ça, je trouvais ça assez intéressant, d'un point de vue vraiment purement de l'interprétation, mais je trouve que ça sent l'attention portée aux parties les plus difficiles. Il y a quelque chose d'assez émouvant, presque de relation maître-élève qui se joue et qui, encore une fois, fait partie du projet. Certes, il est un peu bâtard, il n'est pas abouti, mais il y a des choses qui se jouent.
Encore une fois, au milieu du guet, tout à fait, parce que l'intérêt de ces pièces, c'est normalement comment on s'échange la partie accompagnement et la partie mélodique. Et donc pour ça, il faut deux violoncelles très caractérisées, deux jeux différents mais complémentaires. Il y a d'autres exemples dans la discographie. Là, ça reste un peu mêlé, quoi.
Le Pernod Chrétien était très beau.
Magnifique.
Il y a une
magnifique.
Dizaine d'années, qui choisissait pas tout à fait les mêmes pièces, même s'il y a. Et vraiment, c'était.
Et le Meunier Muller aussi.
Oui.
J'ai beaucoup aimé.
Ouais.
Bon, ben voilà, d'autres références à ajouter à celle-ci. Nous parlions du Sidio pour violoncelle d'Offenbach, gravé par Anne Gastinel et Xavier Phillips pour la Dolce Volta. Ils donneront ce programme en concert le 24 novembre à Saint-Therme, Outre et Ramecourt. C'est un nom composé, mais c'est un seul lieu. Hein. Et puis le 7 décembre, c'est le festival Dolce Volta et on pourra donc les entendre à la Salle Gaveau à Paris. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, David Dana nous a rejoint. Il va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier et nous donner sa réponse.
Qui est l'auteur d'Hippolyte ? Et la réponse est Robert Garnier.
Ce soir, des invitations à gagner pour assister aux assises de la traduction littéraire. Ça, c'est important. Ça aura lieu du 8 au 10 novembre à Arles. Quelle est la question ?
Quel est le titre de l'atelier d'écriture qu'animera Agnès de Sarthe durant les 36e assises de la traduction littéraire ?
Le titre, vous le saurez demain parce qu'on vous donnera la réponse. Elle est bien trouvée. La réponse, si vous l'avez déjà, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lou Kevauvillier, Lucille Como, Boris Pinault, Jean-Christophe Brianchon, il n'est plus là, David Dana, il reviendra. Prise de son ce soir, Élise Le, réalisation Émilie Vanna. Toutes les informations sur franceculture.fr, bien sûr. On se retrouve demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques avec Corinne Rondeau, Stéphane Coréard et Frédéric Bonnet. Nous parlerons de l'exposition du Gréco au Grand Palais, de Sigmar Polk au Bal et de Katinka Bock à Lafayette Anticipation.